Chapitre 29. Certaines choses étaient identiques, d'autres étaient différentes. Laura se retrouvait de nouveau assise, la tête enfoncée entre ses bras croisés. La dernière fois, c'était tard le soir, cette fois, tôt le matin. Mais qui aurait pu faire la différence dans cette pièce sans éclairage naturel? La pièce, d'ailleurs, n'était pas la même, bien qu'elle lui ressemblât pratiquement en tout point, des néons aveuglants à l'agencement du mobilier bas de gamme. Unique différence, il régnait dans l'ancienne salle d'interrogatoire une chaleur étouffante, alors qu'ici, il faisait très froid. La vilaine moquette grise lui rappelait celle qui habillait son entrée. « Ne pense pas à la maison, ne pense pas à la maison, sinon tu vas pleurer. » Comme la dernière fois, Crâne d'œuf et Mono Sourcil étaient assis en face d'elle, l'air grave. Plus grave que la fois précédente, songea-t-elle. Un autre détail lui faisait très peur. Dès qu'elle croisait le regard de Crâne d'œuf, celui-ci détournait les yeux. Laura était exténuée. Elle avait l'impression que des jours, voire des semaines, s'étaient écoulés depuis qu'elle avait reçu le coup de téléphone chez Irène, la veille. Conformément aux ordres des policiers, elle les avait retrouvés sur le parking, devant chez elle, où il l'avait informée de ses droits sous les yeux des voisins curieux. Puis il l'avait escortée jusqu'à son étage, au 7e. Devant la porte, il y avait déjà des gens qui attendaient, vêtus de combinaisons de protection blanche, comme on peut voir à la télé. « Qu'est-ce qui se passe ?» avait demandé Laura. « Vous êtes déjà venu, non ? Vous avez déjà fait votre perquisition, alors pourquoi vous recommencez ?» Quelqu'un lui avait répondu que de nouveaux éléments avaient été découverts et qu'il fallait effectuer une fouille plus poussée. Après une longue attente, il l'avait amenée ici, au poste. Comme il se faisait tard, il l'avait enfermée dans une cellule pour la nuit en lui suggérant de se reposer. Elle n'avait pas fermé l'œil. « Laura ?» l'interpella Mono Sourcil en posant un verre d'eau devant elle. « Votre avocat commis d'office ne va pas tarder à arriver, d'accord ? On va bientôt pouvoir commencer. » « Ça marche, » répondit Laura. Puis elle leva son verre. « Santé !» Ça aussi, c'était la même chose. L'attitude polie et faussement amicale qu'ils adoptaient. À chaque occasion où elle avait eu affaire à la police, ça s'était passé comme ça. Elle s'était dit que là, peut-être, ce serait différent, vu que cette fois la situation l'était aussi. Car il n'était plus question de violation de propriété ou de trouble à l'ordre public, d'ébriété sur la voie publique ou de vol à l'étalage. Mais de meurtre. De meurtre. Laura sentit un petit ricanement monter dans sa poitrine. Elle se redressa sur sa chaise et se mordit la lèvre, mais malgré tous ses efforts, rien n'y fit. Le gloussement s'échappa. Crâne d'œuf releva la tête, surpris. Laura rit de plus belle. « C'est pas drôle, putain, c'est pas drôle !» songea-t-elle. Le gloussement s'amplifia jusqu'à se transformer en un fou rire incontrôlable qui lui fit monter les larmes aux yeux. « Tout va bien, Laura ?» s'inquiéta Crâne d'œuf. Laura se pencha en avant, appuya le front sur la table et se mordit l'intérieur de la joue.
« Arrête de rire, arrête de rire, arrête de rire, putain, arrête de rire !»
La porte s'ouvrit et Laura arrêta de rire. Elle leva la tête. Un petit gringalet aux cheveux roux et à la peau très pâle lui tendit une main molle. L'avocat commis d'office, pas le même que la dernière fois. Il lui donna son nom, qu'elle oublia aussitôt, et la gratifia d'un rapide sourire nerveux. Pourquoi était-il nerveux ? Ça n'était pas bon signe. Crâne d'œuf dit quelque chose. Il faisait les présentations pour le compte-rendu d'interrogatoire. Laura écouta les noms de chacun et encore une fois, elle les oublia tous. Crâne d'œuf, Mono Sourcil, le nerveux. Et Laura Kilbride. Les deux policiers commencèrent à poser leurs questions, les mêmes qu'à l'interrogatoire précédent. Où avait-elle rencontré Daniel ? Quand ? À quelle heure était-il monté sur le bateau ? Qu'avait-il fait à ce moment-là ? Exactement les mêmes qui lui avaient déjà posé une première fois à l'appartement, puis une deuxième au poste de police. « Putain, mais vous voulez pas changer de disque ?» finit par lâcher Laura. « On l'a déjà eu, cette discussion, merde ! Vous répétez un sketch ou quoi ?» Elle se tourna vers le nerveux. « Et vous, vous avez un rôle là-dedans ? Parce que franchement, on vous entend pas beaucoup. Allez-y, dites une blague pour voir !» Crâne d'œuf pinça les lèvres, visiblement peiné. « Est-ce que vous trouvez ça drôle, Laura ?» demanda Mono Sourcil. « Est-ce que vous pensez que tout cela n'est qu'une vaste blague ?»«
Mais j'espère bien que c'est une blague. Je vous ai déjà parlé de Daniel Sutherland. Je vous ai raconté qu'on s'est disputé, qu'on s'est un peu bousculé, et puis c'est tout. Je l'ai pas poignardé. On a fait le tour de la question et vous avez aucune preuve de rien du tout. Que dalle. Et comme vous avez rien trouvé, vous me faites revenir ici pour me harceler. Elle se tourna vers le nerveux. Ils peuvent pas m'arrêter s'ils ont rien, si ? Demanda-t-elle.
L'avocat baissa les yeux vers le carnet sur lequel il n'avait rien noté. Vachement compétent, le mec.
À un moment, faut vous décider, lança-t-elle aux deux inspecteurs. Soit vous m'arrêtez, soit vous me laissez partir.
Cranduff se pencha en arrière sur sa chaise, la regarda droit dans les yeux et expliqua qu'en plus d'un témoin qu'il avait vu quitter la scène de crime couverte de sang à l'heure estimée du décès de Daniel Sutherland, ils avaient retrouvé l'ADN de Laura sur le cadavre et celui de Daniel sur elle. Il y avait aussi le fait qu'elle lui avait volé une montre. Et, dernier clou dans son cercueil, l'analyse des fibres du t-shirt qu'elle portait ce jour-là avait confirmé que si la plus grande partie du sang présent sur le tissu était le sien, il y en avait aussi qui appartenait à Daniel Sutherland. « Est-ce que vous pourriez éclairer ma lanterne, Laura ?» demanda Cranduff. « Si, comme vous dites, Daniel était toujours vivant lorsque vous êtes parti. Comment expliquez-vous la présence de son sang sur vos vêtements ?»« Finalement, c'est pas trop mon truc de baiser une boiteuse. » lui avait lancé Daniel au petit matin, juste après avoir joui pour la deuxième fois. L'insulte était venue de nulle part et avait pris Laura totalement au dépourvu. Jamais elle n'aurait cru Daniel capable d'une telle cruauté. Elle savait bien que ce n'était pas un gentil. Elle n'aurait pas couché avec lui si ça avait été le cas, parce qu'elle n'aimait pas les gentils. Les gentils se révélaient souvent les pires ordures. Mais là, elle ne s'était pas du tout attendue à ça. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il la pousse, à ce qu'il s'esclaffe en la voyant tomber. Et ce n'était pas un rire forcé, mais un vrai éclat de rire, comme s'il trouvait sincèrement la situation hilarante. Elle s'était relevée, aveuglée par la rage, et avait bondi sur lui avec une telle rapidité qu'il avait pris peur. Elle l'avait vu dans ses yeux, l'espace d'une fraction de seconde. Laura, cette fois c'était Monosourcil qui s'adressait à elle. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer la présence du sang de Daniel Sutherland sur votre t-shirt ?
Je l'ai mordu.
Vous l'avez mordu ? Répéta Monosourcil, l'air grave. Et Laura eut beau essayer d'imiter le sérieux de son interlocutrice, elle ne put s'empêcher d'éclater à nouveau de rire. C'était plus fort qu'elle. La situation était grave, gravissime même. Et pourtant, elle regardait les inspecteurs assis en face d'elle et elle riait, elle riait. Cranduff, de son côté, avait l'air profondément triste, tandis que Monosourcil arborait un petit sourire satisfait. À côté d'elle, elle sentit le nerveux frémir. Il leva les mains, écarta les doigts, et la regarda comme s'il s'apprêtait à dire « Mais qu'est-ce qui vous prend, putain ?»«
Je l'ai mordu fort, juste là !»
précisa Laura en indiquant un point dans son cou au-dessus de la clavicule.
« Jusqu'au sang !» J'ai senti le goût dans ma bouche et sur mes lèvres. Je me suis essuyée, c'est comme ça que j'ai dû en mettre sur mon t-shirt.
Monosourcil secoua la tête, sans se départir de son petit sourire satisfait. Alors c'est ça votre explication, c'est tout.
Oui, vous avez qu'à demander au médecin légiste. Demandez-lui si Daniel avait une morsure dans le cou.
Étant donné l'emplacement des coups de couteau, indiqua Cranduff, une telle marque pourrait bien être impossible à repérer.
Ah ! S'exclama Laura avec un sourire victorieux.
Mais je pense qu'il est peu probable qu'une simple morsure soit responsable de tout le sang que nous avons retrouvé sur vos vêtements, à moins que celle-ci ait été très profonde. Est-ce que c'était le cas ? Demanda Cranduff. Laura déglutit.
Non, je suis pas un vampire non plus. Comme je vous disais, on s'est un peu bousculé et quelque chose s'est cassé. Une assiette peut-être ou un verre, je sais plus. Si, c'était un verre. Vous avez dû retrouver des éclats par terre, non ? Et Daniel avait du sang sur la main, je crois. Et il m'a poussé. Il m'a mis la main sur le visage et il m'a poussé. Je m'en souviens parce que j'ai dû me débarbouiller en rentrant à la maison. Peut-être qu'il m'a aussi poussé au niveau de la poitrine quand il m'a écarté pour sortir du bateau.
À côté d'elle, le nerveux griffonnait comme un fou sur son carnet.
Vous n'avez jamais mentionné cela, Laura, dit Cranduff. Pourquoi n'en parler que maintenant ?
Parce que ça n'avait pas d'importance.
Bien sûr que si. Vous avez menti à la police, Laura. ajouta Cranduff d'une voix lasse. Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit? Pourquoi mentir au sujet d'un élément aussi important?
Et pourquoi pas? Aboya Laura. J'étais déjà dans la merde. Je suis toujours dans la merde et je voulais pas aggraver les choses. Alors j'ai menti, d'accord?
Elle hurlait à présent.
J'ai menti, mais là, je dis la vérité!
De nulle part, ou peut-être de sous la table, Mono Sourcil sortit alors un petit sac en plastique transparent qu'elle posa entre Laura et elle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Laura? Demanda Mono Sourcil. Laura ouvrit la bouche et la referma.
Qu'est-ce que je peux vous...
Le fou rire menaçait de nouveau, mais elle parvint à le réprimer en se mordant la lèvre.
Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Eh ben, c'est un couteau, on dirait. Un couteau pas très grand, avec un manche noir, en bois, j'imagine. Il y a quelque chose sur la lame. Je sais pas ce que c'est, mais si je devais deviner, je dirais...
N'essayez pas de deviner, intervint le nerveux, qui semblait enfin s'être réveillé.
Ouais, vous avez raison. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je peux vous dire que ça ressemble à un couteau que je n'avais jamais vu avant.
Très bien, dit Cranduff. Dans ce cas, seriez-vous surprise d'apprendre que nous avons trouvé ce couteau dans votre appartement?
Laura secoua la tête. Non, enfin oui. Bien sûr que je serais surprise. Je viens de vous dire que je l'avais jamais vu, il n'est pas à moi.
Elle se leva.
Je vous jure qu'il n'est pas à moi.
Asseyez-vous, s'il vous plaît, demanda Cranduff d'une voix douce. Et Laura s'exécuta.
Pourquoi j'aurais...
commença-t-elle.
Non, bon, disons, de façon purement hypothétique...
Mademoiselle Kilbride, je... intervint le nerveux.
Non, non, c'est bon. Donc, disons de façon purement hypothétique que ce couteau était dans mon appartement. Pourquoi je l'aurais laissé là? Je suis pas folle. Ni complètement demeurée. Alors pourquoi je l'aurais gardé?
Vous aviez bien gardé la montre de Daniel, fit remarquer Mono Sourcil.
Mais putain, on tue pas les gens avec une montre quand même.
Mais on les tue avec un couteau.
Laura leva les yeux au ciel.
Vous voyez?
Dit-elle en se tournant vers son avocat.
Vous voyez? Toujours à essayer de me faire dire ce que j'ai pas dit. À essayer de me piéger. C'est bien les flics, ça. Ce couteau est pas à moi. Je sais pas d'où il vient, mais il est pas à moi.
Et donc quoi? Fit Mono Sourcil. Où voulez-vous en venir? Je ne veux pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, alors racontez-moi ce qui s'est passé selon vous.
Une fois de plus, Laura ouvrit la bouche et la referma comme un poisson. Puis elle leva les bras en signe d'agacement.
Mais j'en sais rien, moi! Quelqu'un l'a mis là? Un collègue à vous qui a voulu me mettre ça sur le dos, peut-être? De toute façon, je sais bien que vous êtes à cran. Ça fait 2 semaines que Daniel est mort et vous avez rien.
Quelqu'un l'a mis là, répéta lentement Mono Sourcil. Vous pensez que quelqu'un a mis ce couteau chez vous? Qui d'autre que vous a accès à votre appartement? Est-ce que quelqu'un a un double?
Vous voulez dire à part mon majordome?
Railla Laura.
Et ma bonne, mon coach perso et... Ah si, attendez, Myriam. Myriam avait ma clé.
Ça lui était revenu comme ça. Les deux inspecteurs échangèrent un regard.
Elle a dû... reprit Laura. Écoutez, je blaguais pour le majordome, mais il y a vraiment une femme. Elle s'appelle Myriam et elle habite sur la... Mais je suis bête. Vous la connaissez? Vous lui avez parlé puisque c'est elle qui a retrouvé Daniel. Eh bien, Myriam avait ma clé.
Les inspecteurs échangèrent un second regard, puis Mono Sourcil prit la parole. Vous êtes en train de nous dire que Myriam Lewis avait la clé de votre appartement?
Je connais pas son nom de famille, mais c'est la femme qui habite sur une péniche et qui a retrouvé le corps. Des Myriam, il y en a pas 50, si?
Il n'y en a qu'une seule, effectivement, et c'est bien Myriam Lewis, répondit Cranduff, qui semblait sincèrement abasourdi par cette révélation. Qu'est-ce qui vous fait croire que Myriam Lewis aurait pu mettre ce couteau chez vous?
Laura avait la respiration saccadée. Elle voyait des choses qu'elle n'avait pas vues jusque-là, une lueur au loin, et elle éprouvait... Quelle était cette étrange sensation? De l'espoir.
Ma clé! Vous vous souvenez, je vous ai dit que je l'avais perdue? Que je m'étais ouvert le poignet en cassant le carreau?
Cranduff acquiesça.
Eh ben finalement, c'est elle qui l'avait. Elle m'a dit qu'elle l'avait ramassée sur la péniche de Daniel, mais elle n'a pas précisé pourquoi. Bref, ça veut dire que depuis sa mort, elle a pu venir dans mon appartement n'importe quand. En plus, elle...
Tout devenait plus clair à présent.
En plus, reprit-elle,
Elle en veut aux Meyerson. Vous le saviez, ça? Elle les déteste. Elle pense que c'est des ordures, des gens malveillants. Je sais pas trop pourquoi. En tout cas, elle m'a dit qu'elle pensait que c'était Carla, la tante de Daniel, vous voyez qui c'est? Elle m'a dit qu'elle pensait que c'était elle qui avait tué Daniel. Moi, ça m'a paru bizarre sur le moment. Mais maintenant, je me dis qu'elle essayait juste de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Après tout, si c'est elle qui a trouvé le corps, c'est peut-être parce qu'elle savait qu'il y avait un corps à trouver, non? Il n'y a pas un truc comme quoi le coupable est souvent la personne qui découvre le corps? Je sais que ça peut paraître tiré par les cheveux, vu que c'est une vieille, mais...
Elle a 53 ans, fit remarquer Cranduff.
Voilà, oui. Mais c'est pas parce qu'elle est vieille qu'elle a pas pu le tuer. Elle est quand même sérieusement dérangée, vous savez. Je sais ce que vous pensez, vous me regardez et vous vous dites « c'est l'hôpital qui se fout de la charité ». Mais justement, je sais de quoi je parle. Vous étiez au courant qu'elle a été kidnappée par un tueur en série quand elle était jeune et qu'elle a écrit un bouquin sur cette histoire? Elle est complètement tarée!
Conclut Laura en pointant son index vers sa tempe, tout en décrivant de petits cercles dans le vide. Les deux inspecteurs étaient tous les deux enfoncés dans leur chaise, bras croisés. Visiblement, Laura les avait réduits au silence, au moins pour quelque temps. Monosourcil fut la première à réagir. Cette clé que Myriam possède, est-ce que... Qu'elle possédait? Je l'ai récupérée. Vous l'avez récupérée? Hier, c'est bien ça? Quand vous êtes allé chez elle et que vous l'avez agressée?
Pardon? Je l'ai pas agressée, j'ai...
Mademoiselle Lewis a porté plainte contre vous, Laura, annonça Monosourcil.
Mais elle... c'est des conneries! Je l'ai pas agressée, c'est elle qui m'a poussée! Regardez!
Laura indiqua le bleu qui lui couvrait tout un côté du visage.
Elle m'a poussée! Je suis tombée, mais... Mais en plus, ça n'a aucun rapport!
Elle se tourna vers le nerveux.
Vous devriez pas intervenir, vous? Dire un truc, peut-être?
Elle indiqua le sac plastique contenant le couteau.
Est-ce que vous avez retrouvé mes empreintes digitales dessus? Bien sûr que non, pas vrai?
Nous continuons à effectuer des analyses.
Des analyses pour des empreintes?
S'esclaffa-t-elle, moqueuse.
Vous avez rien trouvé du tout, ouais. Bon, écoutez, est-ce que vous comptez me mettre en examen ou pas? Parce que sinon, moi,
Nous allons vous mettre en examen, Laura. L'espoir s'envola.
Mais, et la clé? C'est quand même un élément important, non?
Vous avez un mobile, vous étiez sur le lieu du crime, vous nous avez menti sur la gravité de votre altercation avec Daniel, énuméra Monosourcil en comptant sur ses doigts. Nous avons découvert son sang sur vos vêtements et l'arme du crime a été retrouvée en votre possession.
Elle n'était pas en ma possession,
protesta Laura, les larmes aux yeux.
La clé, c'est forcément... Je vous en prie.
Elle se tourna vers Cranduff, qui semblait lui aussi sur le point de se mettre à pleurer. Refusant de croiser son regard, celui-ci baissa les yeux avant de s'adresser au nerveux. « Nous allons l'emmener pour lui signifier sa mise en examen à présent, » dit-il.
« Non, je vous en prie !»
répéta Laura. Elle tendit les mains vers Cranduff. Elle voulait le supplier, se jeter à ses pieds, s'offrir à lui. Mais d'autres personnes étaient entrées dans la pièce, des policiers en uniforme, et quelqu'un l'aida à se lever. Avec douceur, ce qui rendait les choses encore pires. Laura repoussa l'agent et commença à se débattre. « Laura !» Elle entendit la voix de Cranduff, inquiète et implorante. « Laura, s'il vous plaît, ne faites pas ça !» Mais elle voulait faire ça. Elle voulait se débattre. Elle voulait qu'il l'attrape, qu'il la jette au sol, qu'il l'assomme. Elle voulait que tout s'arrête.